De nouveau sur ces médias, on dit que qu'avant d'aller au coup d'État, disons, c'est Raúl García Ponce qui dit ça dans son petit livre jaune là, sur le coup d'État, qu'en fait les médias et tous les auteurs du coup d'État, donc les golpistas, militaires, entrepreneurs et tout ça, le patronat, les syndicalistes pourris, se sont créés en fait une réalité complètement virtuelle et ils croyaient véritablement disposer d'un appui dans la société, ce qui a été montré comme totalement faux suite au retour de Chavez au pouvoir. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce processus de création d'une réalité virtuelle?
On pourrait partir d'une anecdote que j'ai vécue il y a quelques semaines à Caracas, où une journaliste s'offusquait d'être filmée par nos caméras de notre télévision communautaire. Et j'ai eu un bref dialogue avec elle. Elle me demandait donc pourquoi est-ce que nous la filmions. Et je lui ai dit, mais vous filmez les gens sans problème, pourquoi nous ne pourrions pas, nous, vous filmer? Égalité de droit. Oui, mais je n'aime pas beaucoup que vous me filmiez, dit-elle ensuite d'un ton très préoccupé. Et ensuite, en parlant avec d'autres collègues journalistes, je me rends compte qu'en fait, ils sont convaincus du fait que les hordes chavistes, comme ils les appellent souvent eux-mêmes, ont décidé de les assassiner ou en tout cas de leur faire beaucoup de tort personnellement. Et j'ai compris à ce moment-là qu'ils ont fini par croire leur propre mensonge, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué la soi-disant agressivité des mouvements bolivariens, le fait que les cercles bolivariens soient des cercles terroristes, armés, qui s'entraînent pour décimer l'élite, etc. Et bon, au départ, on a pris ça comme quelque chose de bonne guerre, c'est-à-dire on n'attendait rien de moins de la part d'une élite dans un processus de transformation sociale comme discours. Mais ce qui apparaît là, en fait, c'est qu'ils ont fini par croire eux-mêmes leurs propres mensonges. Et là, on rejoint ce que tout à l'heure on disait sur l'autisme d'une élite, qui n'est pas tellement une classe bourgeoise intelligente, modérée ou pragmatique, ou en tout cas intelligente dans le sens où elle pourrait négocier avec des secteurs populaires, mais une élite tout à fait crispée sur ses intérêts et qui sait que elle pourra. Donc on a affaire effectivement à une élite qui est autiste par rapport à ses intérêts et qui n'est pas capable de croire même qu'un peuple a surgi autour d'elle. C'est un peu l'image d'une famille patricienne qui tout à coup découvrirait que ses domestiques sont dotés de paroles ou dotés de pensées. Et cette vision de l'Indien ou du métèque ou de l'esclave comme quelqu'un qui n'est pas doté d'âme, ça nous renvoie à des siècles de débats théologiques. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est une espèce d'isolement, de solitude profonde d'une petite classe sociale qui, par conséquent, génère ses propres discours, mais en même temps ne les considère comme la seule vérité possible. Puisqu'ils sont seuls sur Terre, il n'y a pas d'autre vérité possible que la leur. Et par contre, effectivement, le destin actuellement du pays, c'est de rétablir une vérité qui corresponde à la majorité de la population, dans le sens où elle a toujours été niée ou évitée ou écartée.
Et dans la galaxie des médias, une galaxie contrôlée globalement, pratiquement entièrement au niveau national, régional et tout ça, que ce soit télévisé, radio, écrit, presse écrite, contrôlée donc par le secteur privé, commercial, il y a une petite chaîne nationale qui s'appelle Canal 8 ici, la Venezolana de Televisión, qui est la chaîne d'État et qui sert globalement un peu d'organes de communication du gouvernement, d'organes de propagande, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses de cette chaîne, en fait, après l'avoir vue plusieurs fois?
Elle représente la survivance au sein du mouvement bolivarien, du vieux style, du style étriqué, du complet trois pièces, de l'idéologie relativement bourgeoise ou paternaliste en tout cas, qui malheureusement habite pratiquement l'ensemble des cadres politiques bolivariens. Ce n'est pas pessimiste de le dire parce que c'est une simple réalité compréhensible par le fait que ce processus est très jeune, très neuf. Il n'y a pas eu de formation de cadre à l'intérieur d'une nouvelle donne sociale. Il n'y a pas eu de formation de nouveaux dirigeants politiques qui seraient vraiment issus d'une réalité sociale neuve où la démocratie participative aurait déjà permis de faire affluer du sang neuf dans l'imagination politique. On est à peine au début de ce processus. Et on peut comprendre dès lors que la façon de faire une télévision comme le canal d'État, qui comme tu le dis est effectivement une sorte d'organe de propagande, ne dépasse pas le verticalisme classique du discours. On retrouve un vieux problème de la gauche en Amérique latine, c'est-à-dire cette illusion qu'il suffit de prendre d'assaut un canal de télévision pour y faire passer un message de gauche, en croyant que c'est cela transformer les médias et transformer la société et que par cet effet-là, la société changera. Une vieille tradition verticaliste qui est liée à la structure même des sociétés latino-américaines et qui a hanté, habité et informé de l'intérieur la grande partie des mouvements de gauche. À peine aujourd'hui, on voit qu'à travers le zapatisme, ou d'autres expériences comme au Brésil, on arrive à une nouvelle conception de la politique, mais c'est encore, comme tu le sais, à la fois jeune et encore relativement réduit par rapport à l'ensemble de la gauche latino-américaine.
Durant le coup d'État, un des objectifs des golpistas fut de faire taire le gouvernement. Et donc, pour faire taire le gouvernement, faire taire aussi le canal Ocho, via un centre de communication au Mexique, ils ont réussi à brouiller les... Brouiller tout... Allez, comment... J'ai plus le mot, là. Comment... À brouiller toute diffusion du canal Ocho dans le pays. Et ils sont venus le fermer aussi. Comment ça... Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ce canal a... Parce que c'est tout de même un symbole, a été rétabli, et quel est le rôle, entre autres, des médias communautaires dedans?
Mais les médias communautaires sont devenus, au moment du coup d'État, les yeux de la population, et les oreilles aussi, et la bouche, puisque effectivement le canal Ocho, le seul canal d'État, celui qui donc pouvait donner une information indépendante des médias putschistes, avait été fermé, en partie parce que son personnel l'avait déserté. Et ensuite aussi parce que les putschistes ont entouré rapidement les bâtiments pour empêcher ce personnel d'y rentrer. Il y a eu un moment où, effectivement, à l'intérieur même du canal, beaucoup de fonctionnaires ont abandonné pratiquement leur poste en attendant de voir, dans une position attentiste, ce qui reflète d'ailleurs aussi le problème dont on parle est sur la capacité réellement révolutionnaire de ce canal d'État. Bref, toujours est-il que les médias communautaires ont eu un rôle crucial dans le rétablissement par leur propre force et avec leurs connaissances parfois artisanales des émissions. Ils se sont arrangés pour pouvoir remettre en route les caméras, les metteurs, et diffuser des premières émissions avec quelques problèmes techniques, mais suffisamment pour commencer à reprendre la main sur le plan médiatique. Cette irruption des médias communautaires sur la scène médiatique, à la fois parce qu'ils effectuaient des reportages dans la rue, parce qu'ils continuaient donc à informer tant bien que mal la population, et leur participation exemplaire dans la remise en route du canal d'État, a permis, à partir du coup d'État et du retour au pouvoir de Chavez à la suite de l'échec du putsch et aussi le rétablissement de la Constitution, des libertés démocratiques, a permis aux médias communautaires de parler avec plus de force, de faire entendre leur voix davantage et accélérer en fait le processus même des médias communautaires au Venezuela. Ce qui fait actuellement que nous sommes un des pays qui, sur le plan mondial, peut vraiment démontrer, témoigner des plus fortes avancées en tant que média communautaire. On a une situation tout à fait enviable puisque non seulement la loi donne un cadre, mais l'État lui-même a aidé, a permis à des tas de médias d'exister sur le plan du permis légal, mais aussi du conseil technique, du conseil juridique, une commission nationale des télécommunications qui organise, comme ce fut le cas il y a quelques semaines, un forum international des médias communautaires. C'est quand même assez rare. Et ça a été le cas, et des gens d'autres pays, de France, de Belgique, d'Espagne, du Brésil, d'Uruguay, sont venus à la rencontre des médias communautaires, et c'est quand même l'État vénézuélien qui a fourni la logistique de cette rencontre, sans vouloir aucunement d'ailleurs le récupérer, mais en essayant au contraire de faire en sorte que ce secteur se fortifie par l'échange d'expériences.
Depuis le coup d'État, comment est-ce que tu analyses justement Chavez, son gouvernement, son action, son discours dans le processus bolivarien, son rapport par rapport au peuple, le rapport de force dans la société? Globalement, quelles sont les perspectives de ce processus bolivarien?
La personnalité de Chavez est contradictoire et cela explique en partie une série de doutes et de perplexités qui se manifestent actuellement au sein du mouvement révolutionnaire. On sait qu'on doit énormément à Chavez parce qu'il a réalisé en quelques années, en très peu de temps, ce que la soi-disant gauche vénézuélienne n'a pas réussi en 30 ans, c'est-à-dire de déclencher un processus de participation populaire qui peut-être un jour le dépassera et dévorera sa figure encore teintée par endroits de populisme. Évidemment, il faut souligner aussitôt que le mouvement populaire n'est pas né avec Chavez et qu'il était en gestation, qu'il avait déjà eu ses grands moments et depuis longtemps d'ailleurs, à différents moments de l'histoire du Venezuela. Sur la question même de Chavez depuis le coup d'État, effectivement, on peut observer qu'il a beaucoup régressé dans l'application de nouvelles mesures qui seraient pourtant très nécessaires, au sens où l'appui populaire le lui permettait. Et ce sont des choses très simples qui aurait pu être faite, comme dans le cas d'une police qui est aux mains de l'opposition et qui n'a cessé de réprimer. Déjà au moment du coup d'État, d'ailleurs, elle était une des actrices principales de la répression, mais ensuite, de façon constante, elle a réprimé des manifestations populaires.
Tu parles de Caracas.
On parle de Caracas et de la police métropolitaine qui est aux mains du maire Peña, qui est actuellement un des grands opposants de Chavez, et vu les nombreuses violations des droits de l'homme qu'elle a causées, vu la très grande quantité d'indices, il serait très facile, dans un état de droit comme est le Venezuela, au gouvernement et à Chavez de prendre des mesures qui viseraient à empêcher de nuire cette force répressive. Et cela est extensif au reste du pays, puisqu'on a de très nombreuses violations des droits de l'homme contre des paysans qui bénéficient de la loi des terres, loi qui a été justement lancée par Chavez lui-même. Donc, pourquoi le président de la République ne réagit pas, ne prend pas des mesures qui seraient même des mesures purement constitutionnelles, même pas des mesures politiques, mais des mesures de protection de la vie même des gens? Ça, c'est une des choses qui nous préoccupe beaucoup, beaucoup, parce qu'il semble que, d'une certaine façon, le peuple est livré à ses agresseurs sans bénéficier de la protection minimale d'un État qui a pourtant normalement les moyens de le protéger. Sur le plan général, je te dirais que Chavez, visiblement, capitalise très bien la mobilisation populaire et la forte participation qui s'est créée à partir du coup d'État. Cette réaction très forte de la population en faveur du processus est capitalisée par Chavez à travers de grands meetings de masse, des discours enflammés où il réaffirme profondément la volonté qu'il a de transformer le pays. Et ce que actuellement on observe effectivement, c'est que cet appui populaire reste très fort malgré une crise économique en grande partie générée par l'opposition interne et l'opposition externe des États-Unis, qu'il s'agisse de fermer les entreprises ou de créer une pression sur les prix du pétrole. Mais actuellement, le problème, c'est au fond, dans quelle mesure le président Chavez, qui semble très isolé, en tout cas au sein d'un gouvernement conservateur, même s'il s'appelle bolivarien, il y a très peu de ministres réellement progressistes, réellement engagés, dans quelle mesure va-t-il soit répondre aux attentes pressantes de la population qui lui demande de prendre de véritables mesures concrètes liées à la transformation sociale, à la transformation économique, à la transformation politique, et aussi tout simplement de protéger les droits de l'homme. Dans quelle mesure ce président va répondre ou non à ces demandes, et la patience des gens n'est pas éternelle. Ça, c'est une des questions, je crois, centrales actuellement. Et l'autre question corollaire, c'est évidemment s'il n'y répond pas. Si le Chavez aujourd'hui n'est plus le Chavez d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques années, s'il se révèle aujourd'hui incapable d'avoir un pouvoir suffisant ou d'avoir la volonté suffisante pour mener cette transformation, le mouvement populaire peut-il assumer la transformation? Est-ce possible? Est-ce suffisant? Et que doit faire dans ce cas-là le mouvement populaire pour assumer cette transformation? Quels sont les mécanismes d'organisation? Et en a-t-il le temps? Dispose-t-il des cadres politiques qui peuvent vraiment accompagner ce processus? Voilà toutes les questions qui sont actuellement posées au peuple, à ces fameux 80% de pauvres qui sont essentiellement formés de travailleurs de l'économie informelle, qui sont donc dotés d'une puissance sociale très forte. Rappelle-toi que les travailleurs de l'économie informelle reconnaissent que depuis Chavez, ils ont la possibilité de travailler sans être réprimés, sans voir leur point de vente saccagé. Il y a donc là toute une série de forces sociales, comme les paysans également, qui sont tout à fait gagnées, comme on dit en espagnol, qui sont tout à fait convaincus que le processus est nécessaire et veulent le maintenir. Mais, encore une fois, est-ce que cette force sociale peut, à elle seule, assumer le processus de transformation? Donc voilà la question.
Ouais, je vais te poser une dernière question, là, c'est la question des militaires. Comment peut-on analyser le rôle... Bon, Chavez est militaire, il a d'abord tenté un coup d'État essentiellement militaire, même s'il parle toujours d'alliance civique aux militaires. Mais globalement, quel est le rôle des militaires dans ce processus? Et donc à travers le coup d'État aussi, mais comment est-ce qu'on peut analyser ça? Parce que il est toute personne qui voudrait être solidaire de ce processus, en général, qui serait de gauche, on va dire. En général, bon, si on va voir en Europe, aux États-Unis, il y a plutôt un sentiment antimilitariste. Et voir un militaire à la tête d'un État qui n'arrête pas de faire la publicité, justement, de l'armée, bon, mais ça peut repousser beaucoup de monde. Alors, comment est-ce que toi, tu vois cela?
Oui, encore que, bon, les militaires ne sont pas intrinsèquement homogènes partout, c'est-à-dire tout dépend du rapport de force sociale. Hein. Les militaires peuvent être des révolutionnaires. Dans le cas de la Révolution française ou d'une certaine façon du De Gaulle, première manière, le fait qu'il soit militaire n'a jamais posé de problème par rapport à des nécessités à un moment donné. qui était celle de retrouver une indépendance. Donc, ce qui se passe, comme dans le cas de Nasser ou d'autres cas de militaires progressistes, c'est que on a finalement ici le résultat d'une démocratisation relative de l'armée, c'est-à-dire de l'entrée dans le champ militaire de recrues issues de milieux populaires. C'est un phénomène qui s'est amorcé à partir des années 60, Chavez étant un exemple. Et par conséquent, l'armée vénézuélienne n'est pas du tout une armée comme on pourrait la connaître en Colombie ou au Chili, beaucoup plus centrée sur l'élite. C'est une armée beaucoup plus représentative au fond de la société vénézuélienne elle-même, avec une majorité populaire et effectivement un généralat beaucoup plus lié aux classes dominantes. Lors du coup d'État, on observe que de fait, ce sont surtout les généraux qui mènent la danse. Avant et après le coup d'État, d'ailleurs, il est assez fréquent de voir à travers les médias dominants apparaître des généraux qui se prononcent contre la présidence actuelle de Chavez et qui réclament sa démission et qui demandent au peuple de les suivre dans leur appel à la désobéissance civile. Appels qui sont d'ailleurs en général très peu suivis des faits, pour ne pas dire nuls. Donc on a une armée qui, au fond, est coupée en deux. Le coup d'État, qu'est-ce qu'il révèle au fond? C'est qu'on a une armée qui est coupée en deux. Entre, ou plutôt en tout cas scindée entre une sorte de d'élite qui serait formée par les généraux et puis une base qui est plutôt de tendance loyaliste par son extraction sociale. Il faut se rappeler d'ailleurs que déjà à l'époque de Bolivar, les soldats de l'indépendance étaient quand même les esclaves qui avaient fui leur chaîne en sachant bien que le rêve d'indépendance serait aussi le rêve de leur liberté. Donc il y a là toute une histoire qui explique un peu ce qu'est l'armée vénézuélienne. Et on peut comprendre, comme tu m'en poses la question, que l'image d'un militaire, une fois qu'elle est exportée en Europe, se transforme en autre chose, c'est-à-dire vue d'Europe. Avec le contexte latino-américain, on peut finir par croire qu'un militaire, c'est forcément quelque chose de répressif. Mais c'est un manque d'information essentiellement, c'est un manque de contextualisation qui pousse à ces conclusions. Parce que ce qui est frappant au Venezuela, c'est que les présidents sociodémocrates antérieurs à Chavez, et on peut parler surtout de Carlos Andrés Pérez, ont été de très grands violateurs des droits de l'homme. Par exemple, on se souvient en tout cas du fameux Caracazo, qui est la répression ordonnée par ce président Carlos Andrés Pérez lorsqu'il a appliqué les mesures du FMI en 89 et que la population est sortie massivement, poussée par la faim et par l'inquiétude dans les rues de Caracas. Il a ordonné à l'armée, après avoir suspendu les garanties constitutionnelles, de réprimer joyeusement, sans aucune limite. Et ce sont des fosses communes qui ont été remplies par les victimes de cette répression militaire. Or, Carlos Andrés Pérez était considéré comme un bon démocrate par l'ensemble des médias occidentaux, par l'ensemble des politiques occidentaux. C'est un membre de l'Internationale socialiste à travers son parti, un ami de nombreux dirigeants sociaux-démocrates. Et il a créé quand même, par une décision personnelle, de nombreux milliers de victimes. Par contre, depuis que Chavez est au pouvoir, tout militaire qu'il soit, ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, les forces de sécurité n'ont pas pu réprimer, comme elles le faisaient avant, les mouvements populaires, les travailleurs informels ne sont plus réprimés, les paysans, quand ils sont réprimés, c'est par les forces de l'opposition qui sont restées au pouvoir dans certains États, mais jamais, bien au contraire, par les forces du gouvernement. Donc, sur le plan strict des droits de l'homme, Il y a un saut qualitatif depuis l'arrivée du militaire Chavez. Donc, c'est assez paradoxal, effectivement, de devoir expliquer en Europe qu'un militaire respecte plus les droits de l'homme que les civils, mais c'est la réalité.
Oui, mais par exemple, Chavez donc, fait la promotion de l'armée. Par exemple, il a lancé le plan Bolivar 2000, qui est un plan de construction d'infrastructures, de projets économiques, de zones de développement et tout ça. Un plan assez ambitieux. Et là-dedans, les militaires jouent un rôle énorme. Par exemple, ils n'arrêtent pas de raconter des histoires, comment les militaires aident à répartir les terres des paysans, comment ils construisent des habitations avec les Indiens de l'Amazonie, comment ceci, comment cela. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression finalement que les militaires jouent le rôle de l'État, jouent le rôle d'un État qui n'est pas chaviste, d'un État qui n'est pas bolivarien, d'un État qui n'est pas révolutionnaire? Et finalement, Chavez compte plus sur les militaires et que l'opposition, justement, n'arrête pas de faire du pied aux militaires pour qu'ils se mettent de l'autre côté afin de pouvoir changer la donne.
Si, c'est absolument exact. C'est-à-dire, les militaires sont à peu près la seule ressource organisée de Chavez pour mener à bien un certain processus de justice sociale, très chrétien d'ailleurs, comme ce que tu cites, c'est-à-dire des exemples d'opérations médicales, de reconstruction ou de construction au service des plus pauvres, dans l'urgence même de rétablir un minimum de justice sociale, dans des opérations qui visent à venir en aide aux plus pauvres, ceux qui ont vraiment besoin d'une façon urgente d'un appui, d'un État qui effectivement n'a jamais réussi à répondre à ses besoins. C'est donc symptomatique d'un problème politique, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autre courroie de transmission que l'armée pour mener à bien des projets sociaux, dans un premier temps en tout cas. Et évidemment, l'espoir actuellement, c'est que le mouvement populaire se fortifie pour prendre en quelque sorte le relais de cette première étape où l'armée a effectivement joué un rôle important à travers les plans Bolivar. Ce qui est aussi important à dire, c'est que il subsiste à travers ça une idéologie assez paternaliste, hein, c'est-à-dire c'est évidemment beaucoup plus agréable de voir les militaires armés de bulldozers, de pelles, de matériel médical, etc., que d'armes mortelles. Donc là, c'est déjà beaucoup plus sympathique de les voir travailler pour la population. Néanmoins, cela reflète tragiquement cette survivance d'une culture paternaliste qu'on a déjà évoquée lorsqu'on parlait de la télévision d'État, c'est-à-dire ce verticalisme où une minorité éclairée se charge d'administrer la réalité pour le plus grand nombre, avec de très bonnes intentions parfois, avec pas mal de moralisme, mais toujours d'une façon verticale. Dans ce sens-là, on a souvent vu dans les opérations du plan Bolivar, donc ce plan mené par les militaires dans le sens d'une politique sociale, on a souvent vu une certaine passivité de la population qui assistait les bras croisés aux activités des militaires, mais sans vraiment y participer. Actuellement, depuis le coup d'État, la mobilisation et la participation sont venus reléguer un peu au passé, heureusement, cette première action de l'armée, en faisant en sorte que ce sont les gens eux-mêmes actuellement qui prennent en main leur propre transformation.